Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles épisode 2. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sympa, mais qui s'avère être parfois quand même un peu prise de tête, le choix du prénom. Et oui, le prénom, comment on va l'appeler notre bébé? Du temps de nos grands-parents, c'était plus facile. En gros, les filles, on les appelait Marie ou Martine, les garçons, Jean ou Pierre, et tout le monde était content. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Le choix est beaucoup plus vaste et dans les couples, on n'est pas toujours d'accord.
Le choix du prénom a été une étape difficile pour nous. Nous avions des divergences somme toute courantes. Par exemple, je souhaitais un prénom singulier. Mais les principales difficultés que nous avons rencontrées étaient liées à notre mixité. Puisque du fait que nous avons deux langues maternelles différentes et deux cultures différentes, nous n'étions pas d'accord sur certaines sonorités et nous n'étions pas d'accord sur les représentations ou les associations que nous faisions avec les différents prénoms que chacun d'entre nous avait sélectionnés.
Une étape difficile, et oui, c'est bien plus fréquent qu'on pourrait l'imaginer, des engueulades à propos du prénom. Et quand ce n'est pas le cas et que le couple tombe d'accord, il y a quelque chose qui peut être risqué, voire même très risqué. Vous savez ce que c'est ? C'est d'annoncer son choix à ses proches. Et oui, forcément, on s'expose à des remarques pas toujours d'une grande finesse. Vous connaissez les entourages.
On a voulu annoncer à nos parents pour faire plaisir le prénom de notre troisième enfant avant l'accouchement. Et mon beau-père a eu une réaction très vive, je trouve verbalement violente, en disant que cet enfant n'était même pas né, mais on le faisait partir dans la vie avec un gros handicap.
Et oui, derrière ça, faut être vraiment sûr de son choix pour ne pas douter. D'ailleurs, c'est vrai ça, ce que tous les futurs parents espèrent, c'est quoi ? Bah, qu'ils ne regretteront pas ce prénom et accessoirement que leur enfant, il l'aimera. Ce serait bien quand même.
Je sais pas si on a eu raison à l'époque, mais en tout cas, elle aime son prénom et elle aime le fait qu'il soit original et qu'il sorte un petit peu de l'ordinaire.
Et si ça lui plaît, l'essentiel est là. Dis-moi comment tu l'as appelé, je te dirai qui il va devenir. Le choix du prénom, ce plaisir qui peut s'avérer être un casse-tête. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Benjamin Muller et je suis très heureux de vous présenter ce deuxième épisode du podcast des maternelles, podcast où je vous propose de parler chaque semaine des grandes questions qui intéressent les futures mamans et les jeunes parents et globalement tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à ces sujets. Aujourd'hui donc, on va tenter d'aider ceux et celles qui cherchent en ce moment le prénom pour leur bébé. Et pour nous aider à y voir plus clair, ça tombe bien, j'ai pu rencontrer la meilleure sur le sujet. Bonjour Stéphanie Rapoport.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de l'Officiel des prénoms qui vient tout juste de sortir, l'Officiel des prénoms 2020. On peut dire que vous êtes l'une des, si ce n'est la grande spécialiste du choix des prénoms en France. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Déjà, quelle va être la grande tendance si on devait en définir une pour l'année 2020?
Depuis quelques années, la tendance est au prénom court, au prénom qui se termine en A pour les filles et au prénom de l'Ancien Testament pour les garçons, les prénoms rétro également dans les deux genres. Et les prénoms caméléons.
C'est les prénoms qui sont compatibles avec toutes les cultures, on peut le résumer comme ça ?
Oui, ce sont des prénoms multiculturels, très universels, qui vont bien sonner dans différentes langues, comme Sophia par exemple, qui est recensée dans plus de 20 langues, ou qui vont être universels parce que par exemple Jade va évoquer la pierre ou Chloé la fleur, ces deux prénoms étant dans le top 5 féminin. Ou sinon, ça va être des prénoms qui sont présents dans les trois monothéismes et qui vont donc, à ce titre, séduire les parents laïcs, les parents pratiquants.
Est-ce que vous savez comment les parents choisissent le prénom ? Est-ce qu'ils ouvrent ce guide ou alors un autre guide, ils regardent tous les prénoms, ils font des listes, ça marche au coup de cœur, il n'y a pas vraiment de règles?
Les parents aiment feuilleter, avoir des idées. Dans ce livre, il y a beaucoup de prénoms qui sont portés par moins de 30 personnes et puis en même temps, toutes les statistiques qui permettent de se donner une idée de si on aime un prénom, s'il est très donné ou pas. Ils sont aussi à la recherche de l'originalité. Pour beaucoup d'entre eux, il y a une vraie singularisation, une recherche de singularisation du choix du prénom pour que l'enfant ait un prénom un peu unique.
Alors, on va parler de tout ça en écoutant beaucoup de témoignages qu'on a reçus de téléspectateurs et surtout de téléspectatrices de l'émission qui nous ont expliqué comment ils ont choisi leur prénom. Vous allez l'entendre, parfois ça a été des vrais moments de prise de tête pour elles. On commence avec Charlotte.
Il y a 3 ans de ça, on est allé en vacances chez une de mes amies et on a rencontré sa petite sœur, Lise, que tout le monde surnommait Lily. Et on a passé vraiment pas mal de temps avec elle à jouer, à apprendre à la connaître. Et c'était une adolescente de 12-13 ans à l'époque, vraiment intelligente, douce, gentille, mais aussi très maligne, avec les yeux rieurs. Voilà, une super ado. Et on a passé de très bons moments avec elle. Et en fait, quand on est rentré de ses vacances, on en a beaucoup discuté sur la route parce qu'on a eu le temps. Et on s'est dit que si un jour on avait un enfant et que c'était une fille, on l'appellerait Lily. Et l'année dernière, quand on a décidé d'avoir un enfant ensemble, donc on a rediscuté des prénoms. Et moi, je suis rousse, j'ai beaucoup de taches de rousseur, donc il y avait de fortes chances que notre enfant, fille ou garçon, soit roux ou rousse également. Et du coup, on a reparlé de ce prénom, Lily, et c'est vrai que c'est vraiment un prénom qu'on associait à une petite fille rousse, intrépide, prête à tout, mais aussi très intelligente, très gentille. Et du coup, c'est pour ça que très rapidement, pendant ma grossesse, on avait choisi, si c'était une petite fille, d'appeler notre enfant Lily. Et il se trouve que c'est une petite fille et c'est une petite Lily qui est née le 1er juin. Voilà.
Stéphanie Rapoport, c'est très mignon, là. C'est une belle histoire que raconte Charlotte. Ça doit être fréquent, j'imagine, qu'une belle rencontre marque et que ça donne le prénom plus tard, quelques années après.
Oui, absolument, parce que le prénom qu'on va attribuer, il faut déjà, de la part du parent, aimer ce prénom pour pouvoir ensuite expliquer à l'enfant que c'est un prénom qui évoque des choses très positives. Alors, soit parce que on connaît quelqu'un dans son entourage qui porte très bien ce prénom avec des caractéristiques qui sont souhaitables chez les parents. Ça peut être aussi en référence à des personnages historiques ou voilà, ça dépend des valeurs, des goûts. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui se passe assez souvent d'être inspiré par un prénom parce que la personne qui le porte est tout simplement belle et rayonnante.
Et est-ce qu'à l'inverse, une mauvaise rencontre peut bannir définitivement l'idée de donner tel prénom ?
Absolument, Benjamin. Une mauvaise rencontre ou un fait divers. Je pense à Grégory, par exemple, l'affaire Grégory qui a fait chuter la cote de popularité du prénom alors qu'il était en plein essor à l'époque.
Nouveau témoignage reçu, cette fois d'un papa, il s'appelle Jonathan.
Nous avons choisi avec ma femme le prénom Juliette car on adore les vieux prénoms. Du coup, la famille a plutôt bien aimé. Simplement juste ma mère qui n'a pas trop apprécié, qui a dit qu'elle préférait Julia et qu'elle appellerait Juju. Bon, depuis, tout se passe bien. Elle adore ce prénom et elle a décidé de l'appeler aussi Juliette.
Alors Stéphanie Rapoport, il parle de vieux prénoms pour Juliette. C'est vrai que Juliette est un vieux prénom. Est-ce qu'on peut parler de valeurs sûres ? Il y a des prénoms comme ça qui plaisent toujours et un peu à tout le monde. Juliette, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde pour venir ne pas aimer ce prénom.
Absolument. D'ailleurs, Juliette a rebondi dans le top 20. C'est un prénom rétro et le rétro fonctionne particulièrement bien au féminin puisque Emma est au premier rang, mais vous avez Alice, Zoé, Rose et Juliette, donc, et Jeanne qui vient de s'imposer également dans les 20 premiers rangs. Donc Juliette, oui, absolument, c'est une valeur sûre. Si on aime la littérature, on pense à Roméo et Juliette. Alors c'est vraiment un intemporel, un classique, un grand classique. Et ça va bien s'exporter à l'étranger aussi. Juliette en anglais, ça passe très bien. Julietta, voilà, c'est un bon choix.
Très bon choix, Jonathan. On valide donc. Nouveau témoignage, cette fois de Valentine.
Bonjour à tous, je suis Valentine et je vous envoie ce message depuis Lima au Pérou. Je vis actuellement avec Pablo, mon mari qui est péruvien, et notre bébé que nous avons prénommé Basco. Le choix du prénom a été une étape difficile pour nous. Nous avions des divergences somme toute courantes. Par exemple, je souhaitais un prénom singulier. Mon mari, quant à lui, préférait un prénom classique. Mais les principales difficultés que nous avons rencontrées étaient liées à notre mixité. Puisque du fait que nous avons deux langues maternelles différentes et deux cultures différentes, nous n'étions pas d'accord sur certaines sonorités et nous n'étions pas d'accord sur les représentations ou les associations que nous faisions avec les différents prénoms que chacun d'entre nous avait sélectionnés. Notre choix s'est finalement porté sur Basco, qui est un prénom que nous trouvons rare, en tout cas dans nos deux pays respectifs, et qui plus est, c'est un prénom que nous trouvons assez neutre sur un plan social, mais aussi au niveau de l'époque, puisqu'il n'est pas très ancré dans une époque et nous pensons donc qu'il va évoluer facilement avec notre enfant. Nos familles ont bien accueilli ce prénom, surtout côté français, côté péruvien, il a fallu un petit temps d'adaptation, mais aujourd'hui c'est un prénom qui est totalement admis. Et nous avions anticipé cela, c'est pourquoi nous avons gardé l'annonce du prénom pour la naissance, afin d'éviter toute influence de la part de nos familles respectives.
Donc Stéphanie Rapoport, là aussi témoignage intéressant, merci à Valentine qui nous envoie ça depuis le Pérou. Quand il y a deux cultures différentes, j'imagine qu'il faut réussir à trouver là aussi un prénom caméléon qui peut coller aux deux. Comment elles font ces familles-là ?
C'est un peu mon cas aussi, parce que je suis mariée avec un Américain. Et donc je comprends tout à fait, c'est pour ça que dans le livre d'ailleurs, il y a une page sur les prénoms triculturels qui passe très bien bien dans les pays francophones, les pays hispanophones, les pays anglophones. Alors, dans ce cas-là, donc les parents doivent penser aussi à la sonorité du prénom. Est-ce que le prénom va être facile à prononcer dans les deux langues? Parfois, la sonorité va changer énormément. Par exemple, Colin, qui est très doux en français, va se prononcer Colin en anglais. Ça va être un petit peu dur. Donc voilà, il faut vraiment prononcer dans les deux langues. Dans le cas de ce couple qui a choisi Basco comme prénom, l'avantage, c'est que ce prénom n'est pas connu en France. Mais il est très facile à orthographier, à mémoriser. C'est un prénom court, deux syllabes, avec une terminaison en O. Donc je pense que c'est un très bon choix parce que l'enfant n'aura aucune difficulté à se faire comprendre et à faire en sorte que les gens se rappellent de lui.
On comprend bien aussi qu'il faut composer dans ce genre de situation, que ça peut prêter à des débats dans la famille entre le futur papa et la future maman. Est-ce que ça arrive que des couples s'engueulent pour le choix du prénom ?
Oui, ça arrive, ça dépend un petit peu de l'équilibre du couple aussi, mais en général, nous on avait posé la question sur notre site meilleurprénom.com, on avait fait un sondage et les parents disaient qu'en général c'était vraiment un choix qui était fait à deux, il y avait une légère majorité pour la maman au niveau de qui a le dernier mot dans le couple, mais vraiment massivement ce sont les deux parents qui décident. Parfois des parents vont se mettre d'accord en disant bon alors si c'est le premier, ça va être plutôt toi qui va avoir le dernier mot. Et alors pour le deuxième enfant, c'est plutôt l'autre personne du couple qui aura le dernier mot.
Les prénoms originaux sont à la mode, d'accord. Et on a reçu justement ce témoignage de Sandra qui voulait faire dans l'originalité. Écoutez.
Il y a 8 ans, on voulait un prénom qui soit original pour notre fille. On était tombés d'accord tous les deux sur le prénom Maëlys. Mais à l'époque, il y en avait déjà pas mal. Donc du coup, on était plutôt partis sur le prénom Maëlys. À l'heure actuelle, beaucoup se trompent encore avec le prénom Maëlys, mais bon, ça fait toute son originalité. Je ne sais pas si on a eu raison à l'époque, mais en tout cas, elle aime son prénom et elle aime le fait qu'il soit original et qu'il sorte un petit peu de l'ordinaire.
Alors Stéphanie Rapoport, là aussi, Maëlys, c'est un très bon prénom. Est-ce qu'au-delà de ce cas-là, des parents vont trop loin dans la recherche d'originalité? C'est difficile de juger, mais est-ce que ça arrive que certains aillent un peu trop loin?
C'est vrai que Maëlys, c'est une combinaison de Marie et Elys, et Maëlys, c'est un féminin de Maëlle. Donc les deux prénoms ont pris leur essor. C'est assez courant finalement qu'un prénom puisse en entraîner un autre, comme le Matteo italien qui a entraîné ensuite le Matteo breton avec un H. Ça n'a jamais posé de problème vraiment à ses enfants, parce que les prénoms deviennent suffisamment répandus pour que les personnes sachent faire la différence. Le problème, c'est lorsqu'un prénom extrêmement répandu dans une seule orthographe, tout d'un coup change d'orthographe parce que le parent décide d'être original. Alors par exemple, un Tom avec un E final, ça va être très compliqué à porter pour un petit Tom. Voilà. D'autres prénoms se prêtent beaucoup aux variations. Je pense à Kylian qui bat tous les records avec 35 déclinaisons. Donc là encore, c'est une question d'attente. Si les gens savent que voilà, ce prénom est très décliné, ils ne vont pas être très étonnés. Le pire, encore une fois, c'est voilà, un prénom, je parlais de Tom tout à l'heure, mais Zoé par exemple, Zoé avec un Y, c'est compliqué parce qu'on dit Zoé, les gens écrivent, ne demandent pas comment ça s'écrit parce qu'ils sont sûrs d'eux. C'est donc l'enfant qui va dire « ah oui, mais moi j'ai un Y à la fin ». Donc ça, c'est un peu plus compliqué.
Quand moi j'étais plus petit, c'était les Mathieu avec un T ou deux T. Et là, à la limite, on pouvait poser la question. Là, effectivement, pour Zoé, c'est plus problématique. Tiens, justement, sur ce sujet de la manière d'écrire un prénom, écoutez Jessica.
Je m'appelle Jessica, je suis la maman du petit Louis, L-O-U-I, né en 2017. On a voulu annoncer à nos parents, pour leur faire plaisir, le prénom de notre troisième enfant avant l'accouchement. Et mon beau-père a eu une réaction très vive, je trouve verbalement violente, en disant que cet enfant n'était même pas né, mais on le faisait partir dans la vie avec un gros handicap. Ben moi, je trouve pas. Mais bon, c'est pas grave. Et même les réactions par rapport à l'état civil, à l'administration, pour une inscription à l'école ou autre, tout de suite, il y a une réaction. Ah bon ? Mais comment ça se fait ? Ça n'existe pas, ce prénom. Quelle idée ? Donc, voilà. Alors non, mon fils est en très bonne santé, sachez-le. Et ça existe. Il y a tellement de prénoms avec une écriture différente que je trouve que le prénom Louis n'est pas choquant sans le S. J'ai mon fils aîné qui s'appelle Lucas, L-U-C-A-S. Nous, on a gardé l'écriture, j'ai envie de dire, classique. Et ce prénom se décline sous tellement d'écritures que, en fait, plus personne n'y fait attention, mais par contre, Louis, L-O-U-I, et sans le S, là, par contre, tout le monde est choqué.
Là, c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que Louis, sans S, ce qui est très joli à lire, mais là aussi, on peut s'attendre à ce qu'il subisse quelques réflexions dans sa vie.
Oui, c'est plus compliqué parce que l'orthographe unique de Louis s'écrit avec un S en France. Alors, dans le pire des cas, les gens pourront poser à l'enfant la question de « mais est-ce que c'est une orthographe qui vient d'un pays en particulier ?» Donc, on va lui poser des questions. C'est aux parents d'expliquer à l'enfant la raison pour laquelle ils ont enlevé le S et pourquoi ça s'inscrit dans leurs valeurs et dans quelque chose de bienveillant. Ça ne sera pas si compliqué, L-O-U-I, mais effectivement, c'est un peu plus compliqué quand même qu'avec un S.
Mais ça fera son originalité et quand il sera ado, ça fera tout son charme. J'en suis sûr auprès des filles qui seront contentes de l'appeler Louis sans S. Alors on parlait des réflexions, c'est vrai que des fois les gens ils sont pas très fins en commentant les prénoms. Ce qui d'ailleurs, et c'est vraiment normal, touche en plein cœur les jeunes parents quand on vient leur dire que leur choix, bah, il est pas terrible, voire même qu'il est tout pourri. Écoutez ce témoignage de Charlotte.
Bonjour, alors moi c'est Charlotte, l'heureuse maman de deux petits garçons, Marty et Andrea. Pour Marty, les gens étaient soit très enthousiastes, ça leur rappelait la trilogie Retour vers le futur et ils prévoyaient de le surnommer McFly, ou alors ils étaient très réfractaires. Pour eux, Marty, c'était pas un prénom, c'était un diminutif et ça leur faisait penser au mot martyr. Pour Andrea, beaucoup de gens pensaient que c'était un prénom exclusivement féminin. On a d'ailleurs une fois une personne qui nous a demandé si notre enfant était un petit garçon ou une petite fille. On a donc répondu un garçon, nous a demandé comment il s'appelait, on a répondu Andrea, et là la personne nous a dit « mais donc c'est une fille ». On a beaucoup ri, beaucoup beaucoup ri, mais non, c'est bien un garçon, il existe des prénoms mixtes. Allez, bonne journée.
Donc là c'est valable pour Andrea, mais c'est valable pour tous les prénoms mixtes, effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir des réflexions, mais après tout, ça fera partie de l'histoire, j'imagine, de l'enfant. Pour le cas de Marty, les gens qui vont dire « attendez, ça fait vraiment martyr », là il y a un manque de finesse terrible, mais j'imagine que ça arrive aussi fréquemment.
Oui, d'où l'intérêt de ne pas parler du choix de prénom que l'on fait lors de la grossesse, parce qu'on peut être vulnérable et puis se retrouver confronté à des réflexions comme ça qui vont peut-être nous faire passer à côté du prénom alors que c'était vraiment le prénom coup de cœur. Effectivement, oui, non, là...
Marty ! Il faut que tu repartes avec moi !
Où ça ?
Mais vers le futur !
Pas si vite, mais de quoi est-ce que vous parlez ? Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur ?
Marty, inspiré peut-être par Retour vers le futur, sans doute, même super film, film culte qui a marqué toute une génération, celle qui devient d'ailleurs en ce moment parent. Quels seraient, selon vous, les films ou les séries, pourquoi pas, qui aujourd'hui inspirent ? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Game of Thrones récemment.
Ah oui, alors là, avec Game of Thrones, on a le prénom Arya qui est porté maintenant par plusieurs centaines de Françaises et c'est en plein essor. Et on a aussi Khaleesi et Daenerys qui n'existaient absolument pas. Puis alors avec des orthographes assez compliquées. Donc, Game of Thrones est un pourvoyeur de mode de prénoms. C'est pas le seul. Il y a vraiment les prénoms people. Je pense à Aya, par exemple, qui monte beaucoup grâce à la rappeuse Aya Nakamura. Mais si vous considérez ce qui s'est passé dans les siècles passés, par exemple au XIIIe siècle, finalement, le Game of Thrones de l'époque, c'était les romans arthuriens. Et Tristan, Iseult, Lancelot, Arthur ont fait un carton à cette époque. Et c'était uniquement des prénoms qui étaient transmis de bouche à oreille. C'était leur Game of Thrones de l'époque.
Donc en fait, tout change, mais rien ne change. Vous avez évoqué tout à l'heure ce prénom. Kylian Mbappé. Vous disiez tout à l'heure, Kylian, il y a beaucoup de manières d'écrire ce prénom. Depuis l'an dernier, la victoire en Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un phénomène avec ce prénom, Kylian, depuis l'an dernier ?
Le pic de popularité de Kylian date de 2007. Donc, il n'y aura pas de miracle. C'est un prénom, la chute de ce prénom est vraiment bien enclenchée. En revanche, il y aura un petit effet. Ça va peut-être ralentir cette chute. Ça va peut-être stagner un petit peu. L'effet qu'il y aura, c'est plutôt, et en général, l'effet qu'il y a quand il y a des stars de foot comme ça, qui vont refaire monter la côte de popularité d'un prénom, c'est quand le prénom est déjà en certaine ascension. Alors, comme Kylian est premier en Guyane française, et qu'il n'est pas très loin dans le top 5 des autres îles d'outre-mer, il pourrait y avoir un effet Kylian dans ces îles d'outre-mer. Mais en France métropolitaine, c'est peu probable.
Dernier témoignage, vous allez l'entendre, de quelqu'un qui a beaucoup hésité, et qui encore aujourd'hui se demande si elle a fait le bon choix, c'est Lucille.
Pour le choix du prénom de notre fille, bon déjà on a attendu de connaître le sexe et ensuite on a tout simplement pris le livre des prénoms Et on a fait lettre par lettre avec mon mari. Chacun faisait sa liste de son côté. Et puis on comparait, on supprimait les prénoms qui n'étaient pas en commun sur les deux listes. Petit à petit, donc on s'est retrouvés avec 150 prénoms, 70 prénoms, 30 prénoms. On n'avait pas de prénoms coup de cœur, ou en tout cas, les prénoms coup de cœur qu'on pouvait avoir étaient des prénoms qui étaient déjà portés par des personnes de notre entourage, et on souhaitait pas donner à notre fille le prénom de quelqu'un qu'elle serait amenée à côtoyer régulièrement. Du coup, on s'est retrouvés en salle de naissance avec toujours trois prénoms, aucun qui sortait du lot, ou en tout cas, on n'avait pas forcément le même classement, donc on a fini par se décider sur le prénom qui était, on va dire, en numéro 2 dans chacune de nos listes. Et le prénom en question, c'était Lottie. Du coup, quelque chose d'assez pragmatique, pas trop dans le sentiment. Ce qui fait que depuis que notre fille est née il y a maintenant 9 mois, on l'appelle jamais par son prénom. Je peux pas dire que j'aime pas le prénom de ma fille, mais c'est pas non plus le coup de cœur de l'année, mais en même temps j'en aurais pas eu d'autres. Du coup, pas trop compliqué de se mettre d'accord avec mon conjoint, puisque lui non plus n'avait pas de prénom coup de cœur, donc on a fait ça petit à petit. Et un prénom pas du tout original, ça c'était un souhait de ma part, puisque j'ai un prénom alors pas spécialement original, mais qui en tout cas m'a amené dans mon enfance à beaucoup répéter mon prénom, répéter l'orthographe, etc. Donc je voulais pas de ça pour ma fille, je voulais que ce soit un prénom simple, classique, que tout le monde connaît. Et puis aussi, je pense un peu la peur des prénoms à la mode, des prénoms qu'on pourrait juger, enfin voilà. Et on n'a eu aucune réaction de la part de notre entourage quand ils ont appris le prénom à la naissance, hein, puisqu'on n'en avait pas parlé avant. Pas de réaction, ni positive, ni négative. Pendant qu'on cherchait les prénoms, de temps en temps, on donnait nos listes, mais quand elles étaient encore suffisamment grandes, et c'est un prénom sur lequel personne ne nous avait jamais fait aucun commentaire, voilà, ni en bien, ni en mauvais.
Merci à Lucille. Déjà, on peut dire qu'Élodie, c'est un très beau prénom, même si la beauté reste évidemment très subjective. Ça arrive que des parents regrettent un petit peu leur choix, malheureusement.
Ça arrive, mais c'est surtout quand le prénom est très très courant. Alors ils regrettent un peu parce qu'ils auraient aimé être plus originaux après coup. Mais en même temps, il faut savoir qu'un prénom très courant inspire confiance parce qu'il y a une certaine familiarité. Donc on va aider son enfant. Il vaut mieux donner un prénom trop courant qu'un prénom trop excentrique. Et dans le cas d'Élodie, finalement, c'est original parce que ça fait 3 syllabes, ça se termine en IE, c'est une jolie sonorité, c'est rond. Donc bravo aux parents. Il ne faut pas se laisser impressionner par les terminaisons en A qui concernent un tiers des attributions dans les prénoms féminin aujourd'hui.
Merci beaucoup, merci infiniment Stéphanie Rapoport. Je rappelle donc cette Bible, vraiment si vous êtes actuellement enceinte et que vous cherchez, que vous vous cassez la tête, comment appeler votre enfant, l'officiel des prénoms, il y a 12 000 prénoms listés, donc ça va vous prendre quelques nuits à tout lire, vous pourrez faire des listes et puis voter avec monsieur ou avec madame. Tiens, votre coup de cœur, votre prénom préféré de ce guide 2020, question à 1 000 euros, un prénom de garçon, un prénom de fille.
Alors pour les garçons, j'adore Aramis. J'adore ce prénom, c'est en référence aux Trois Mousquetaires, c'est rare. Il y a une terminaison en is qui est assez peu commune chez les garçons. Chez les filles, j'aime bien le breton Maywen, je ne sais pas pourquoi.
Il n'y a pas besoin de savoir. Merci infiniment Stéphanie. Voilà, c'était le deuxième épisode du podcast des maternelles, un podcast réalisé par Alexandre Ferreira pour 2P2L et France Télévisions sous la houlette de Jérôme Caza et d'Olivier Macqueron. Merci à Sophie Cressot pour le graphisme, merci bien sûr à toutes celles et à celui qui ont accepté de se raconter, et merci à Stéphanie Rapoport pour le grand débrief. Si ce podcast vous a plu, c'est important, n'hésitez pas à vous abonner à celui-ci sur par exemple Apple Podcast, sur Castbox ou encore Spotify, et si en plus vous mettez une petite note ou un commentaire, du coup on est content. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un sujet révoltant, les discriminations au boulot que subissent certaines femmes en revenant de leur congé mat. Vous allez voir, c'est vraiment gratiné. D'ici là, on se retrouve sur Instagram si vous voulez me suggérer des thèmes de podcast. Salut tout le monde, à bientôt, j'espère.